Bonjour à tous. Bon milieu de semaine, chers amis. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons parler de pas mal de choses ce matin. En deuxième heure d'émission, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par ce sujet parce que vous m'avez écrit déjà beaucoup en entendant notre promo, sans doute, qui roule depuis hier, sur la séparation de couple. Il y a bien des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué ça autour de vous. Je sais qu'autour de moi, j'en ai pas mal des gens qui se sont séparés, qui sont en couple depuis plusieurs années, qui ont des enfants, puis qui... Là, ça commence. Ça s'arrache. Ça s'arrache le cœur, ça s'arrache le compte en banque. C'est pas drôle, c'est une période difficile hein, quand on se sépare après avoir vécu ensemble, après avoir monté une équité. Là. Donc, comment tu sépares ça? Il y a les émotions, puis il y a l'argent. On va avoir tout à l'heure un avocat médiateur familial qui va pouvoir nous éclairer là-dessus, puis on va bien sûr essayer de vous aider si vous êtes dans ce processus-là. On va pouvoir répondre à vos questions. On va aussi se demander si c'est une bonne idée de faire les fameuses mises à jour sur notre téléphone, notre tablette, notre ordi. On est bombardé, je sais pas vous, mais moi j'en reçois, je sais pas combien par semaine, des mises à jour de... Puis, t'sais, on a comme compris qu'il fallait pas trop les faire parce que sinon ton téléphone, entre autres, va être ralenti. On va voir tout à l'heure ce qu'en pense notre chroniqueur techno, Pascal Forget. Mais en première heure d'émission, je voulais revenir sur un sujet qu'on a légèrement abordé la semaine dernière quand Protégez-vous a sorti sa nouvelle version de magazine où il vous posait la question, puis on vous la posait également. Est-ce que vous êtes vraiment écolo? Vous remarquez, on se pense toujours un petit peu plus écolo qu'on est vraiment. Écono aussi, on pense toujours qu'on a des trucs pour pas trop gaspiller. Finalement, je vous le disais aussi il y a quelques jours, on est de plus en plus endetté. Encore aujourd'hui, sur 100 $ de revenus que vous avez, vous en devez 170. Et pourtant, il y aurait des économies à faire direct dans votre frigo. C'est-tu assez fascinant de voir qu'on jette, tenez-vous bien, là, on jette l'équivalent du tiers à peu près de notre frigo. Là. Bon an, mal an, c'est ce que ressortent d'ailleurs des chiffres, même sur une base internationale. On n'est pas les pires. Mais on est quand même une société privilégiée et on sait qu'on jette beaucoup de choses pour toutes sortes de raisons. Alors, je vais vous présenter mes invités parce qu'ils ont des trucs. Ils essayent de faire en sorte qu'on en sache un peu mieux, un peu plus sur notre frigo, sur ce qu'on achète, sur les dates de préemption, sur tout cela, pour faire en sorte de ne pas gaspiller. C'est vraiment ça, notre sujet de la première heure. Comment peut-on éviter d'autant gaspiller de bouffe? Avec nous, Mathilde Roy, qui est la journaliste de Protégez-vous, qui a fait cette grande enquête, entre autres. Merci d'être là, Mathilde.
Bonjour.
Amélie Côté est spécialiste en gestion des matières résiduelles. Elle a un blog qui s'intitule briqueabac.com. Merci d'être là, Amélie. Et avec nous, Guillaume Quentin, directeur général et co-initiateur de la Transformerie. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Qu'est-ce que la Transformerie?
La Transformerie, c'est la délicieuse solution aux invendus des épiceries et fruiteries. On a identifié les épiceries avaient un besoin, en fin de compte, pour gérer les invendus. Souvent, ces invendus-là, les produits qui sont sortis des rayons finissent à la poubelle ou à la collecte des matières organiques. On a remarqué en faisant un défi qu'un ami m'a lancé de cuisiner un souper gastronomique avec des déchets,
ouais.
Se mettre les mains dans les poubelles. On a identifié qu'il y avait une qualité au niveau des invendus. Ça nous a vraiment surpris. Autant, on savait qu'il allait avoir une quantité, mais c'est la qualité. Si on regarde au niveau des fruits et légumes, les produits qui sont sortis des rayons, c'est des produits qui sont mûrs. C'est pas des produits qui sont moisis, abîmés. Si on y pense en tant que consommateur, qu'on va à l'épicerie, on va acheter des produits souvent pour les faire mûrir à la maison. Fait que quand ils sont mûrs dans l'étalage, on les achète pas.
Souvent, c'est parce que ceux qu'on considère moches. D'ailleurs, maintenant, il y a une espèce de mode où des légumes moches, tu les payes un peu moins cher. Est-ce que les gens sont attirés par ça? Est-ce que le fait que le prix soit moins cher, ça influence notre consommation de ce qu'on appelle moche? Là?
Je pense qu'il y a eu quand même une forme d'engouement là-dessus. Les légumes moches, c'est une chose qui est un petit peu différente parce que c'est lié à les critères d'esthétisme. Fait que souvent, ces produits-là, en amont, même avant le supermarché, ne se rendent pas si ça ne répond pas aux critères d'esthétisme, à part qu'il y a eu des campagnes vraiment spécifiques pour mettre en marché ces produits-là.
Ça veut dire que même avant que ça nous arrive, ce que vous dites, Guillaume, c'est qu'il y a aussi déjà un premier gaspillage qui est fait. On jette avant même de présenter aux consommateurs parce qu'on considère que c'est pas beau puis que ça se vendra pas.
Je dirais que après ça, c'est propre à chacun comment c'est géré les produits qui sont déclassés, mais c'est sûr qu'il y a une partie qui finissent soit à la poubelle, soit au champ. Ça dépend quel niveau de la chaîne. Fait que ça, c'est vraiment les légumes moches. De notre côté, les invendus, c'est qu'est-ce qui est allé dans les rayons et qui est sorti des rayons que nous, on va gérer de façon éco-responsable avec les commerçants. Fait qu'on amène une solution à ces gens-là qu'on imaginait avec les commerçants pour eux. On a identifié qu'il y a beaucoup d'organismes en dépannage alimentaire aujourd'hui qui manquent de denrées. Ils veulent avoir accès à ces denrées-là, mais d'un autre côté, les commerçants aussi veulent la donner, cette denrée-là. Mais comment on liste ces gens-là pour prendre ces invendus-là et leur permettre d'y avoir accès? Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une partie des fruits et légumes. Comme je disais, il y a une qualité qui est présente là, puis on fait des tartinades salées et sucrées. Moi, avant, j'étais chef. Puis on a vraiment développé des recettes. On vend, en fin de compte, ces produits-là, ces conserves-là, ben, je dis, on les vend, on va les mettre en marché au début de l'année prochaine. Et le commerçant...
Ça, c'est votre projet, là. Ouais.
C'est notre projet, la transformerie. On amène un service de collecte structuré aux commerçants. On collecte ces denrées-là. Il y a une partie qui est transformée en tartinade. On les revend aux commerçants. Eux les vendent, ces produits-là. Et ces produits-là montrent qu'ils participent à une initiative d'anti-gaspillage. Ça réduit leurs déchets, bien sûr. Et aussi, ça crée un ancrage social parce qu'on peut leur dire à qui va aller la nourriture au niveau des denrées qu'on va distribuer. Parce qu'au-delà des 15 fruits et légumes qu'on identifie avec lesquels on va faire des tartinades, il y a tous les autres fruits et légumes, la viande, les produits secs, tout ça qu'on va redistribuer à des organismes en dépannage alimentaire.
Oui, justement, Mathilde Roy, dans votre grande enquête là, sur ce qu'on jette et tout, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être jetées du tout. Et ce que vous concluez, entre autres, c'est que les gens regardent vraiment les dates. On a bien incorporé le principe de date de péremption. Les gens voient la date, bon, jusqu'à telle date, le lendemain ou la veille, ça passe aux poubelles si on l'a dans notre frigo.
Ouais, c'est le sondage qui a été mené donc avec la transformerie et l'UQAM. C'est vraiment ça qui est intéressant de regarder. Quelles sont les causes du gaspillage alimentaire? Pourquoi les gens sont portés à prendre des aliments qui auraient été encore comestibles puis les mettre soit au compost ou à la poubelle? Et effectivement, la raison principale qu'ils nous donnent, c'est le respect des dates de péremption. Mais on le sait très bien, hein, c'est pas parce qu'on dépasse la date que l'aliment n'est plus comestible et qu'il faut le jeter. Évidemment, ça dépend du type d'aliment. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, prenons les yogourts, les fameux yogourts, s'ils n'ont pas été ouverts encore, il y a des études qui ont été faites, puis même 3 semaines après la date de péremption, c'est en... Et le yogourt a toujours toutes ses qualités gustatives et même tous les nutriments dont il a besoin.
Donc, il a été gardé au froid. Là.
Tout à fait. S'il a été bien conservé et tout, il n'y a aucune raison de le jeter. Du moins, il faut l'ouvrir puis le regarder. Hein. C'est le mot d'ordre maintenant. C'est plus de regarder simplement la date, mais fiez-vous à vos sens. Fiez-vous à l'odeur, au goût, à la texture. Puis, ça va vous en dire beaucoup plus long qu'une simple date qui a été étampée sur un produit.
Oui. Au niveau de la conservation des aliments, toutefois, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut faire. Puis, il y a sans doute des choses aussi, vous parliez des grandes surfaces alimentaires, Guillaume, il y a sans doute des choses aussi qui sont peut-être pas respectées. Un exemple, j'achète de la viande, du steak haché en début de semaine, lundi, mardi, elle est déjà un peu oxydée.
Mais l'oxydation, c'est pas un signe, effectivement. C'est vrai qu'on voit cette petite couleur brunâtre. Simplement, si vous avez mis un aliment par-dessus, c'est là qu'on va voir cette couleur-là. Ouais. C'est pas un signe que c'est pas assez d'âge.
Je vous rassure, je l'ai pas jeté.
Bon,
là.
Voilà.
Mais, parce que je me suis dit, je l'ai acheté hier quand même, ça serait épouvantable. Mais, bon, il faut y aller. La viande, on peut-tu dire, est-ce qu'on peut conclure qu'on peut y aller à l'odeur? Quand ça commence à sentir la variée? On le mange pas.
C'est sûr que l'odeur est quand même un indicateur assez
adéquat, puissant.
On pourrait dire. Puis comme Mathilde disait, l'oxydation au niveau de la viande, c'est pas quelque chose qui est dangereux. Si on y pense en tant que tel, on entend souvent des gens qui font vieillir des pièces de viande. Fait que veut pas, ça, c'est poussé plus loin avec un contrôle des températures et tout ça et de l'environnement. Mais je veux dire, l'oxydation en tant que tel n'est pas un danger au niveau de la viande, à moins qu'elle soit laissée à l'extérieur puis qu'il n'y ait pas les conditions adéquates.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que là, on parle de produits un peu plus à risque.
Amélie,
oui. Mais éventuellement aussi les produits secs, par exemple, la date de péremption, c'est vraiment plus, moi je le perçois beaucoup plus comme une suggestion de ça va être frais jusqu'à une telle date où le goût va être optimal, par exemple. Mais le riz, les pâtes, tout ça, là, il peut y avoir une date de péremption, mais c'est...
Ouais, tant qu'il n'y a pas de bibitte dedans,
Donc,
ça dure, combien de temps, en général, ça, ces aliments-là?
Ça fait des années.
C'est ça, là. ce que j'aime beaucoup, c'est que vous donnez des trucs aussi, Mathilde, dans votre pour savoir, bon, il y a des produits, on fait appel à nos sens, vous l'avez dit, des œufs, par exemple, je trouvais intéressant le truc de l'œuf, parce que c'est pas tout le monde qui les aime, je dis, ben oui, c'est vrai ça.
S'il flotte, ça veut dire qu'il n'est plus bon, donc c'est à ça qu'il faut se fier davantage que la date. Si vous avez dépassé de quelques jours, là, fiez-vous davantage à ça. Mais dans les autres raisons, oui, on parlait de la date de péremption, mais une autre cause qui ressort du sondage, c'est de les gens ont de la misère, en fait, à placer les aliments au bon endroit, à planifier finalement leur placard et leur réfrigérateur. Donc, simplement, de mettre vos aliments aliments toujours au même endroit, mais ça va vous rappeler qu'ils sont là et vous n'allez pas les oublier. On le disait tantôt, hein, si on met un aliment dans le fond du frigo, dans le fond d'un tiroir, on l'oublie puis ça finit par moisir.
Ouais.
Mais si vous mettez toujours les mêmes choses au même endroit, si vous faites une liste avant d'aller faire votre un petit inventaire là, avant d'aller faire l'épicerie, on évite d'acheter en double et donc risquer de jeter. Donc, une meilleure planification, ça va être également un bon truc.
C'est ça, parce qu'on en revient à ça, Amélie. Pourquoi les gens... Parce que les gens, puis nous tous, là, sans doute que vous, moins, parce que vous êtes conscientisés, mais on veut tous moins gaspiller parce qu'on se rend compte que ce qu'on jette, c'est de l'argent qu'on jette finalement, ultimement. Jeter le tiers de notre frigo par année. Je regardais le nombre de milliards que ça vaut. Là. Je ne sais pas si vous avez le chiffre de mémoire. Ben oui, 31 milliards de dollars de nourriture ont été jetés au pays en 2014. Ça, c'est vos chiffres... Vous avez trouvé, Mathilde, c'est l'équivalent de 183 kilos par personne.
Ouais. C'est énorme. Puis à l'échelle mondiale, là, ça représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture consommable qui est gaspillée chaque année.
T'imagines le monde qu'on pourrait nourrir?
Oui, effectivement.
C'est fou, là, quand tu y penses.
Puis là, ça, en termes d'impact environnemental, c'est 3,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre et ça consomme cette nourriture-là pour être produit 250 km3 d'eau. Donc, à la somme, peut-être qu'au niveau individuel, des fois, on le voit pas parce que c'est une petite chose qu'on jette une fois de temps en temps, mais la somme de tout ça, puis évidemment, c'est tout au long de la chaîne de production aussi, comme Guillaume le mentionnait, des fois, c'est directement au champ parce que les légumes, les fruits ne respectent pas des critères de qualité, mais au total, tout ça, il y a vraiment possibilité de nourrir énormément de personnes.
Effectivement, mais je pense qu'il va falloir que les mentalités changent et aussi peut-être les règles du jeu, parce que je me souviens quand vous dites qu'il faudrait partager, finalement, c'est ce que vous dites, il faudrait plus partager. Je pense à cette dame qui était productrice d'œufs, elle avait des poules qui faisaient des œufs, une grande ferme là, qui produisait des œufs, et elle voulait les donner à des centres là, pour des gens qui ont besoin d'aide alimentaire. On lui a interdit de donner ses œufs. Même chose avec des producteurs de lait là, qui voulaient donner du lait, puis on leur disait non, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a des règles. Ça, va falloir que ça change. Là. Moi, je m'imagine à la place de cette dame qui a des œufs, qui sait que c'est... Soit elle les jette, ou soit elle peut les donner à quelqu'un qui a faim. Il me semble que le calcul est rapide. Là. Comment ça... Est-ce qu'on est encore là-dedans? T'as pas le droit de faire ça? C'est réglementé, Guillaume?
C'est sûr qu'il y a une réglementation parce que faut faire attention quand même, il y a des produits à risque. Mais c'est sûr que je pense qu'il y aurait moyen de changer ça. Puis veut pas, ben il y a une politique bioalimentaire qui est sortie au Québec là de cette année. Puis c'est marqué qu'ils veulent vraiment travailler le gouvernement et tout ça à prioriser l'anti-gaspillage. Fait que j'ose croire que des choses comme ça vont être mises en lumière et on pourra, je veux dire, des acteurs travailler à changer ça là.
Guillaume, on en parlait avant d'entrer en onde. Effectivement, on parle de la responsabilité des consommateurs, mais effectivement, cette responsabilité-là, elle est partagée. Hein. On parle de chiffres, puis on pense que, quand vous disiez le tiers de la nourriture qui est jetée, en fait, c'est pas le tiers de la nourriture qui est jetée à la maison. Ça se passe aussi avant dans la chaîne, dans les commerces, d'où ce que vous faites à la transformerie, effectivement. Donc, il faut qu'il y ait cette concertation-là aussi de la part des épiciers, des consommateurs, de l'industrie agroalimentaire.
Oui, c'est ça. Les gens disent en général qu'ils jettent. Il y a à peu près 60 % des Québécois qui pensent jeter à peu près l'équivalent d'un sixième d'un sac d'épicerie.
Ça serait la majorité. C'est une perception. Il faudrait aller voir dans leur poubelle pour voir si c'est effectivement le cas.
Il y en a 17 % seulement qui disent qu'ils jettent le tiers d'un sac d'épicerie. Moi, je pense que c'est plus ça, la réalité.
Peut-être.
Vous en pensez quoi, vous?
Est-ce que c'est votre réalité?
Mais malheureusement. Mais là, sérieusement, on essaie de faire des gros efforts.
Non, mais c'est ça.
Il faut se regarder. Puis c'est pas qu'on aime ça. Là. Personne n'aime ça gaspiller, je pense. Tout le monde fait, voyons, comment ça se fait qu'on... Et c'est vrai que les frigos, ils ont augmenté de taille. Je veux dire, avant, tu manges que dans ton assiette. Aujourd'hui, tout le monde a un menu différent.
Puis ça a été mentionné, je crois, dans le dossier aussi, il y a l'organisme Sauve ta bouffe qui propose des excellents trucs pour la manière de ranger le frigo. Parce qu'effectivement, les produits qui sont non périssables, on peut les mettre, eux, dans le fond. On va les retrouver, ils vont être encore vraiment en bon état.
Oui.
Mais, par exemple, les produits laitiers ne devraient jamais aller dans la porte parce que c'est l'endroit le moins froid du frigo. Donc, ils proposent vraiment des solutions concrètes pour gérer le frigo.
Et c'est de ça dont on a besoin, d'ailleurs. C'est pour ça que notre émission est là ce matin. On va vous donner, vous qui nous écoutez, des trucs bien concrets. Il y a l'œuf quand il flotte. Bon, mais là, c'est un signe. Si vous plongez dans l'eau un œuf et qu'il flotte, c'est qu'il n'est plus bon. là, vous avez le droit de le composter. Hein? On composte des œufs?
Oui.
N'est-ce
pas? Tous les produits animaux là, dans le compost industriel, le compostage qui est collecté par la municipalité, il n'y a aucun problème. Ça peut tout être mis là-dedans.
Dès que c'est de la bouffe, on peut le composter, en fait. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de sonon. Parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Faut que ça soit simple. Ils me regardent les autres. On va aller à la pause là-dessus. 514-790-9850. Et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Vous nous dites si vous estimez quand même gaspiller trop de bouffe et si vous essayez de faire des efforts pour éviter de le faire. Dites-moi comment ça marche chez vous. Vos trucs pour si vous avez réussi à moins gaspiller, comment vous vous y êtes pris. On veut tout savoir. À tout de suite, tout le monde. On a Catherine qui m'écrit, qui revient justement de l'épicerie où elle a acheté une quantité de produits à 30 % de rabais, dont une majorité de produits bio. La péremption, la date de péremption approche. Donc, elle dit, moi, ça fait partie maintenant de ma routine d'épicerie chaque semaine. Je surveille les produits là, qui sont moins chers. Ça me permet d'avoir du bio et puis je les congèle. Puis ensuite, je les mange plus tard. Ça, c'est une possibilité aussi qu'on peut faire, là, de congeler ses légumes.
Congeler, faire des pots en conserve. En fait, ça demande du temps parce qu'il faut les préparer.
Mais voilà, ce qu'on comprend là, de notre conversation jusqu'à maintenant, c'est que ça prend un peu d'effort. Voilà. Ça prend un peu plus d'effort, ça prend un peu plus de travail. Ça sous-entend qu'on cuisine plus à la maison, Mathilde?
Oui, effectivement, parce qu'il faut les transformer. C'est la meilleure façon, finalement, de passer ces aliments, entre guillemets. Puis après, effectivement, on pourrait les congeler. Puis ça nous fait des réserves. Hein. Après, ça vaut la peine parfois de mobiliser un peu de temps. Puis après, parce que tout le monde a son train de vie, tout le monde est très, très occupé. On peut comprendre qu'on repousse sans cesse, mais après, on sauve du temps durant la semaine.
On a Reda qui est avec nous, qui est restaurateur. Bonjour.
Bonjour.
Vous, est-ce que vous gaspillez?
C'est pas ça qui m'a fait bondir ce matin. Ce qui m'a fait bondir, c'est votre bœuf haché que le mardi était déjà en train de changer de couleur.
Ouais.
Ben, je crois que vous approvisionnez à la mauvaise place. Parce qu'il faut le lire sur l'étiquette. Il est écrit un mélange de frais congelés. C'est ça que vous avez acheté, je vous le garantis.
Ouais, c'est si pas, vous achetez c'était pas marqué frais, ça sur l'étiquette. C'était pas marqué ça, non. Puis il y avait une belle couleur, mais...
Il y a beaucoup d'épiceries. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un mélange de frais congelés. Ils mettent dedans du bœuf qui est vieilli, mais c'est pas bon pour le bœuf haché, ça. Il faut acheter du bœuf frais, jamais congelé, puis il change pas de couleur.
Ouais,
le lendemain, le surlendemain, il reste beau, il reste frais. J'ai des gaspillages à la maison, là. J'ai nettoyé mon frigo hier, je m'en suis rendu compte.
Ouais.
Mais dans mon restaurant, vraiment pas beaucoup. Le menu est conçu pour ça.
Et ça veut dire quoi, concevoir un menu pour éviter le gaspillage, Reda?
Ben, tu as quelques items sur ton menu pour t'aider. Comme moi, je vends des burgers. Donc, si j'ai des restes de bœuf haché, j'ai du chili sur le menu. Donc, je fais cuire le bœuf haché, je fais du chili.
Ouais.
Mais même là, je passe mes burgers. Fait que les seuls restes que je peux avoir, c'est des restes de soupe. Puis j'ai essayé de demander à différents dépôts alimentaires, mais ils peuvent pas prendre les items qui sont préparés. C'est ça, je me suis fait dire.
C'est ça, hein? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir que les règles changent ou qu'on s'ouvre. Mais en même temps, je peux comprendre, il y a des gens qui mangeraient pas. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont gentils, t'amènent de la soupe qu'ils ont faite chez eux. Il y en a bien qui ne touchent pas à ça, qui disent je sais pas comment qu'elle l'a fait. On a toutes des espèces de. C'est nouveau, puis j'aimerais ça juste. Merci beaucoup, Reda. J'aimerais qu'on essaye de voir pourquoi on est devenu si difficile sur la bouffe.
Mais je pense qu'il y a une diversité de l'offre alimentaire aussi qui fait en sorte qu'on peut avoir des besoins vraiment spécifiques puis ou des envies vraiment spécifiques puis y répondre. Là, c'est pas nécessairement des besoins. Là, on parle de, on parlait par exemple de perte de la nourriture qui peut être même déjà transformée à la maison. Donc, on fait une grosse batch de quelque chose. Puis là, après 5 jours, ça nous tente plus nécessairement de le manger.
C'est sûr, ouais.
Mais à ce moment-là, on peut peut-être prévoir que je voudrais peut-être pas en manger pendant 5 jours. Mais si on en précongèle quelques portions, ça peut faire des lunchs dans quelques semaines qui vont être vraiment pratiques aussi à avoir sous la main.
Mais je pense que notre attitude par rapport à la nourriture a changé aussi. C'est Marie-Claude Lortie dans la presse qui rappelait l'autre jour qu'à l'époque, tu avais du bleu sur son petit Québec, là, puis tu l'enlevais le bout de bleu, là, puis tu le mangeais pareil.
Aujourd'hui, puis c'est ce qu'il faut faire, en fait.
C'est
non?
Ça,
on a
c'est
juste
ça.
À couper à un certain... Je pense que c'est 2,5 cm. Quand c'est un aliment dur comme ça, la moisissure ne va pas se répartir dans l'aliment. Pour les aliments mous, comme la confiture, c'est moins recommandé parce que là la moisissure peut vraiment voyager dans le produit, mais effectivement, on a juste à couper la moisissure d'un fromage.
Donc, on a modifié notre tolérance par rapport aux aliments. Là.
La conception, je pense, de la fraîcheur a changé avec le temps. C'est une des choses que l'étude dit.
Avec le marketing alimentaire aussi.
Avec le marketing. Puis je pense aussi les dates de péremption ont quand même à voir là-dedans parce que c'est comme une façon arbitraire de, dans la tête des gens, des fois, de dire c'est plus bon, mais au final, c'est encore bon. Je veux dire, c'est meilleur avant, mais ça veut pas dire. Dans le sens que ça ne veut pas dire qu'il est plus bon après ton ingrédient ou ton aliment. Il faut vraiment se ramener, comme tantôt Mathilde disait, c'est important de prendre le temps de sentir le produit, de voir s'il est encore bon. Ça permet vraiment, je pense, de faire moins de gaspillage de ce côté-là.
Puis il faut acheter moins, je pense.
Oui, il faut acheter moins.
De toute façon, M. Couillard nous l'a dit, là, acheter 75 $ par semaine, ça va être bien en masse. On a Jerry avec nous. Bonjour, Jerry.
Bonjour.
Vous voulez nous dire un peu, vous, comment ça marche? Votre frigo, est-ce que vous devez le vider et jeter une partie de vos aliments par semaine?
Bien, de moins en moins. Ah? On essaie de récupérer beaucoup les légumes quand ils sont sur le point de, disons, de devenir un peu mou, comme les piments ou ces choses-là. Moi, je les précoupe, on met ça dans un sac dans le congélateur, donc je me fais ça avec le déjeuner ou ça me fait un mélange de légumes vite fait là, pour faire une poêlée ou quelque chose du genre.
C'est
un peu différent. Puis tranquillement, on essaie de penser à se dire, ben, on passe en arrière de l'épicerie à peu près 2 fois par jour.
Ouais.
Parce qu'on a chacun nos véhicules, puis quand on a besoin de quelque chose, on peut, si on veut, juste arrêter quand on en a besoin. Parce que souvent, on a comme la folie ici, en tout cas au Québec beaucoup, puis en Amérique du Nord, de d'avoir un gros frigidaire, puis de se remplir de « Ah, je vais faire ça », puis au bout du compte, tu fais comme « J'ai pas le temps de le faire », puis ça se perd.
Il y a quelque chose de culturel là-dedans aussi, Jerry.
On regarde les Européens, les Français, qui ont des tout petits frigos, on dit « Comment ils font ?» Et ils passent à tous les jours dans un marché, ils se ramassent un petit quelque chose, OK, ça va être ce soir. Tu sais, ils ont développé ce côté-là de dire la proximité. Mais nous autres, on a comme encore la mentalité du rural, de dire on est loin de l'épicerie, mais tu sais, toutes les personnes qui sont dans des villes, maintenant, ont accès à une épicerie qui est à environ 3, 4, 5 minutes de la maison. Là.
Mais et c'est pour ça que je disais, moi, je pense que c'est culturel et je pense que ça reste un peu, je pense, dans nos gènes. Moi, quand je suis arrivée ici avec ma famille de France, on n'était pas habitués. C'était à l'époque, il y avait encore Steinberg, puis ma mère a compris que les Québécois faisaient leur épicerie pas mal au Steinberg le jeudi.
Une fois par semaine.
Tout le monde se rendait là, puis tu remplissais ton carrosse, puis tu faisais ton épicerie, puis on faisait pas ça. Nous, on disait « Ah, OK, le monde fait ça. » Puis je pense qu'on est resté là-dedans. Puis quand on compare, par exemple, à l'Europe, l'Italie, la France, c'est beaucoup plus des vies de quartier où tu as toujours une petite épicerie. T'as le là, tu vas chez ton boulanger, tu vas chez ton boucher, tu vas chez...
Mais ça, je crois que ça change quand même.
C'est
parce
en train de changer.
Parce qu'il y a de plus en plus de commerces de proximité. Je veux dire, moi, c'est un critère de sélection d'un endroit où je vais habiter, c'est d'avoir la boulangerie, la petite friterie.
Dans certaines régions, t'as pas ça. Là.
Allez, c'est sûr que c'est pas possible nécessairement partout, mais ça fait en sorte qu'on achète des très grandes quantité.
Oui.
Et puis là, il y a encore plus de risques que ça se perde dans
c'est
le
ça.
Fond du frigo.
Tout à fait.
Sauf que normalement, si on fait l'épicerie juste une fois par semaine, il y a peut-être moins d'achats impulsifs aussi. Donc, on ne fait pas de détour par l'épicerie.
Ça dépend si tu as faim en y allant ou pas.
Effectivement. Je suis tentée avant.
C'est ce qui ressort du sondage. Quand on parlait de la question culturelle, les Québécois consomment beaucoup dans les supermarchés de grande surface, dans les Costco, les Walmart de ce monde. Puis, ce n'est pas de dire que c'est mal. Si vous avez une grande famille, que vous savez que vous allez consommer l'entièreté du gros pot de beurre de peanut de 4 litres, c'est très bien. D'ailleurs, ça va même diminuer votre quantité d'emballage, de plastique. Sauf que si vous êtes un couple puis que vous l'achetez parce que vous voulez économiser, mais que vous savez très bien que vous n'allez pas le consommer à l'intérieur de 2 années, ce pot-là va finir par rancir. Donc, il faut se questionner quel type de consommateur on est puis aller vers les commerces qui vont répondre à ces besoins-là.
Ouais, c'est
parce que des fois, c'est une perception d'économie, dans le fond, d'acheter des grosses quantités. On dit la même chose pour les achats en vrac ou de prendre vraiment la quantité dont on a besoin. On va limiter les pertes. Puis, effectivement, à un moment donné, ça se ramasse juste dans le fond du garde-manger. Puis, on l'oublie.
C'est ça.
Ça nous ramène à se poser la question, est-ce que le réfrigérateur nous aide vraiment dans la conservation ou c'est plus un instrument, un outil qui nous fait oublier des affaires dans le fond du réfrigérateur? Dans le sens que je me ramène à ma grand-mère. Dans leur temps, il y avait une réserve, ils s'organisaient, les notions de conservation étaient très claires parce que tu étais pratiquement en mode survivance.
Ouais.
Maintenant, avec notre réfrigérateur, c'est facile quand même d'oublier des choses. Je ne suis pas en train de déresponsabiliser, Mais il faut faire attention à quel point on peut le remplir le réfrigérateur parce qu'à un moment donné, on voit plus clair. On n'est plus capable de voir qu'est-ce qu'on avait mis dans le fond.
Non, c'est ça. Des fois, il y a des frigos, moi, que je trouve stressants. Tu sais, je vois, j'ouvre une personne qui habite toute seule, puis je l'ouvre, puis il est plein. Je me dis, oh mon Dieu, comment on va faire? Comment c'est possible de gérer toute cette nourriture-là à une seule personne? Donc, on surestime.
Oui, là. Mais il y a notre part, ça, c'est clair. On a vraiment beaucoup de responsabilités là-dedans dans nos achats. C'est nous qui achetons comme consommateurs. Mais on nous encourage beaucoup. C'est pour ça que je parlais du marketing alimentaire. Nous encourage beaucoup. Moi, ce qui m'horripile, c'est les deux pour un, les trois. T'achètes en deux, puis t'en as un gratuit. Oui, mais j'en veux juste un. Ton un va te coûter des fois.
C'est le format des aliments aussi. Hein, ça ressort. Les gens trouvent que les formats sont trop gros, en fait, pour leurs besoins.
Oui.
Puis, est-ce qu'on a vraiment, quand on voit dans un sac 5 poivrons, est-ce qu'on va consommer ces 5 poivrons-là? Mais peut-être que vous pouvez...
Mais tu vas les acheter parce qu'on t'est, ou tes 3 ou 4 poivrons, ils vont te coûter juste un peu plus cher que ton 1. Fait que tu dis, bon, on va en acheter 3, coudonc.
Mais si on les jette de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment
c'est
ça.
La perception c'est
ça.
D'économie. Mmh.
Perception d'économie ou de dire, ben, tant qu'à payer, je vais prendre le plus gros format, on ne sait jamais. Mais c'est ça, il faut aussi que les commerçants puis les grandes surfaces se responsabilisent aussi là-dedans. Là. C'est bien beau de nous dire, maintenant, on vous vend des sacs de plastique, vous devez être des consommateurs responsables. Mais il faut aussi que l'industrie se responsabilise.
Effectivement.
On va s'arrêter ici, très courte pause. On va entendre nos auditeurs là-dessus. Est-ce que vous avez réussi à réduire un peu vos pertes de nourriture? On gaspille beaucoup au Québec. On se demande d'ailleurs pourquoi. On a quelques hypothèses ici. Je ne sais pas si vous en avez une. Il y a l'hiver aussi, tu sais, la notion de dire, mon Dieu, d'un coup, qu'on a une tempête de neige, qu'on ne peut pas sortir pendant une semaine, ça prend du stock, tu sais. 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. On a Martin avec nous. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous arrivez à moins gaspiller de nourriture? Vous êtes-vous rendu compte que vous étiez un peu comme tout le monde, finalement, hein? En train de jeter de la bouffe que vous avez payée, ce qui est un peu ridicule?
Mais en fait, ça a toujours été ça. Hein. On a toujours gaspillé beaucoup de nourriture, mais là, je peux vous dire qu'on en gaspille plus du tout, du tout. Puis en plus, je récupère la nourriture des autres. Je fais en sorte que les autres ne gaspillent plus non plus.
Oh, changement radical. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?
Mais en fait, on a acheté une ferme. On est en train de constituer une ferme. On va faire une ferme de polyculture élevage. Je veux pas m'en aller vers du biologique parce que j'ai pas envie de voir... Moi, j'ai une compagnie de construction, puis je connais déjà les raquettes de la CCQ, puis j'ai pas envie d'adhérer à ça, le bio. Mais ils vont être quand même élevés de la même façon. Alors, dans mon coin, je suis de Saint-Anne-des-Plaines, et puis j'ai des partenariats avec deux restaurateurs, et puis c'est moi qui vais approvisionner dans le bac vide et tout ça, puis je vais récupérer toute la découpe des légumes qui vont faire les carottes, les rutabagas, la courge. Fait que dans le fond, même si je donnais des légumes parce qu'on a des porcs, on a des vaches, ça mange pas ça. On a des chevaux, on a des chèvres. On a des poules pondeuses, des poulets à chair. Fait qu'au final, toute la découpe qui, dans le fond, pouvait pas bénéficier le compostage, parce que quand tu es dans le commerce, un commerçant, il peut pas avoir accès au bac brun pour le commerçant, c'est juste les résidents.
Ah ouais?
Là, nous, c'est du moins à Saint-Anne-des-Plaines.
Ah. OK, à Saint-Anne, oui.
Okay. Et puis, je trouve ça bien, parce qu'au final, le restaurateur, ça fait son affaire. Il y a une sensibilité à ça. Et puis, les clients aussi savent que s'il y a des choses qui vont gaspiller, à l'exception des viandes, parce que je ne veux pas donner les viandes, ça s'en va dans le bac à compost. Puis, ils ont des photos, on fournit des vidéos aussi quand les animaux mangent un peu ce qu'ils nous offrent.
Ah.
Donc, ça permet aussi d'économiser sur le moulin.
Quel est le nom de votre ferme, Martin?
Il n'y a pas de nom parce que je suis en démarrage.
OK.
Fait que c'est. En fait, j'ai pas de temps pour faire de la publicité. J'aimerais mieux faire de la publicité pour les restaurants qui approvisionnent. Ça s'appelle Au gré des jours.
Oui.
Un restaurateur de Saint-Anne-des-Plaines qui est aussi traiteur, puis un Ben et Florentine qui le fait. Puis où est-ce que je trouve un peu triste, là? Puis c'est quand tu fais une approche avec d'autres commerçants. Je nommerai pas nécessairement, à moins que vous me disiez Martin, dis-le, là. Mais c'est que tes approches pour dire on serait prêt à récupérer ce que vous êtes de toute façon allez jeter. Puis je sais pas si c'est par manque d'intérêt, manque de temps ou quoi que ce soit, mais qui adhèrent pas à ça. Mais moi, ce qui m'attriste, c'est quand tu viens t'implanter dans une ville puis que tu désires avoir de la clientèle, vendre tes trucs parce que tu es en affaires, tu veux faire de l'argent, là, ouais. C'est pas juste par bonté. puis qu'on, du revers de la main, on fait pas de suivi, ou on dit, oh non, nous, ça nous intéresse pas. C'est, qu'est-ce qui t'intéresse pas? Qu'est-ce qui t'intéresse
pas? Je pense que c'est la gestion de tout ça. Je pense qu'il paraît compliqué au même titre que pour les gens qui ont jamais composté ou qui ont. Je pense que le recyclage, on l'a pas mal incorporé, mais j'ai l'impression que le compostage, je sais pas ce que mes invités en pensent.
C'est ça, c'est, moi, j'ai l'impression que c'est une question, question de perception aussi, des fois, de l'effort supplémentaire. Mais quand on y pense, la poubelle ou le compost, on va avoir généré pas mal la même quantité de matière résiduelle. Puis dans un restaurant plus particulièrement, ben généralement ça va être pas mal juste des résidus alimentaires.
Mais tu sais, à la décharge des restaurateurs qui refusent ça là, ou qui veulent pas participer à ce genre de programme, qui est une super idée, Martin, ce que vous nous décrivez là, bonne chance d'ailleurs. T'sais, ils ont de la misère à trouver des gens pour laver la vaisselle là, au salaire minimum. Imaginez, là, dans leur tête, ils se disent, mon Dieu, vas-tu me prendre quelqu'un, gérer mes vidanges, gérer les restants de légumes que je coupe dans la cuisine, tu sais.
Mais ça peut être
c'est
très
une perception, effectivement,
mais... Ça peut être très simple parce que moi, avant, j'étais chef de restaurant. Puis on faisait affaire à Montréal, avec Compost Montréal, pour les rebuts alimentaires, les résidus alimentaires, puis c'était très simple.
Ils venaient le chercher?
Ils venaient le chercher. Puis comme Martin disait, en fin de compte, je pense que c'est assez simple. Si des gens comme ça ont le désir de le faire, il faut juste avoir la logistique d'opération, de fournir un bac, tout ça, puis ça peut être super simple. Mais je pense, comme Amélie dit, il y a une phase de sensibilisation, de perception, puis il y a une phase de sensibilisation aussi. Là-dedans pour s'assurer que les gens comprennent.
Mathilde?
Oui, ben moi, je serais curieuse, Guillaume, on parle de restaurateurs, mais il y a également les supermarchés. Il y a notamment la marque de Jules Loup qui s'est associée récemment avec IGA. Donc, on sent qu'il y a cette volonté-là de les Jules Loup, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des jus qui sont faits à partir donc de fruits et légumes qui autrement auraient terminé aux poubelles. C'est un peu dans le même esprit que la transformerie. Mais quelle est l'ouverture, en fait, des supermarchés avec qui vous faites affaire pour la transformerie?
L'ouverture est très bonne parce que nous autres, notre approche est vraiment dans l'esprit positif, humain, collaboratif. Souvent, quand on entend parler de gaspillage alimentaire, c'est de la moralisation, de la culpabilisation. Puis nous, on a dit on veut vraiment pas travailler dans ce spectre-là. On veut travailler dans un spectre de plaisir. On est là pour travailler avec le secteur. Comme je le disais plus tôt, on a imaginé une solution avec les commerçants pour eux. Puis ça, c'est important. Puis c'est un peu ça, je disais, par rapport, mettons, travailler avec les restaurants. Il faut comprendre la réalité de ces gens-là pour s'assurer d'arrimer une logistique et une solution qui fonctionne. Nous, les commerçants, dès le départ, une fois qu'on a commencé le projet, on était fait juste la sollicitation à froid, puis on parlait avec eux sans rendez-vous. Puis en général, les gens s'ouvraient. C'est juste qu'on n'y allait pas en disant « Ah, tu devrais pas faire ça. » Non, on allait voir « Ah, avez-vous des solutions par rapport au gaspillage? » Tout ça. Puis tranquillement, on a ouvert des discussions. Puis il y a des gens qui nous aident depuis ce temps-là sur le projet. Là.
C'est, ça, c'est plus des solutions parce qu'on ne s'attend pas à ce que les gens... en fait, par exemple, les commerces, là, je ne pense pas qu'il y ait personne qui a de plaisir à jeter une très grande quantité de fruits, légumes, d'aliments. Eux, de toute manière, là, sinon, ils ont des conteneurs à déchets si ce n'est pas géré. Les résidus alimentaires, c'est des frais aussi pour l'entreprise. Ouais. Donc, à quelque part, la solution qui est proposée par Martin, ça va réduire les frais associés à la gestion des déchets. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une manière de réintégrer finalement les rebuts alimentaires dans le processus de fabrication. C'est une forme d'économie circulaire, là, comme
tout
on l'a
fait. Tout à fait. Il y a Isabelle qui m'écrit, elle dit « C'est pas facile de moins gaspiller que des enfants qui lèvent le nez face à des fruits trop mûrs ou avec des pocs. Alors, je les congèle. » Puis je leur passe dans des muffins ou des smoothies. Même chose pour les légumes. Je fais des soupes, je les mets dans une sauce gaspag. Elle dit, ça passe mieux. Sinon, ben un de mes trucs, dit Isabelle, c'est que j'en achète moins à la fois et je vais plus souvent au supermarché ou au marché local. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'accepter de changer un peu finalement nos habitudes en matière d'alimentation. On va aller à la pause là-dessus. On a Dany Etu qui nous appelle. Il est directeur général de Moisson Rive-Sud. On lui parle après la pause. Dany Etu nous appelle, il est directeur général de Moisson Rive-Sud. Ça vous interpelle ce qui est dit par mes invités? Dany, bonjour.
Oui, bonjour, tout à fait. Je partage la préoccupation par rapport aux pertes, mais je voulais surtout réagir par rapport au lien à faire entre les épiciers qui ont des invendus et les organismes communautaires. Nous autres, en 19 moissons au Québec, on se spécialise là-dedans et on peut certainement aider soit à aller récupérer nous-mêmes les invendus ou à mettre les épiciers en lien avec des organismes de nos réseaux pour s'assurer qu'on diminue effectivement les pertes collectivement.
Ah, est-ce qu'on vous appelle des fois là, comme une grande surface là, alimentaire vous appelle-t-elle pour vous dire « Monsieur, es-tu là? J'ai comme plein de caisses de concombres, puis je sais pas quoi faire avec. »
Est-ce que ça arrive?
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Des grandes surfaces, des plus petites surfaces, même les producteurs eux-mêmes. Notre réseau est quand même assez vaste à la province, à grandeur de la province, mais surtout chez nous, chez Moisson-Rive-Sud. Notre territoire est montérégien ou presque ouais. Totalement. Là. Donc, on récupère tout ce qu'on peut pour les gens fragilisés.
Ouais. Est-ce que vous avez des trucs pour éviter de gaspiller de la nourriture? C'est ça qu'on essaie de trouver ce matin, Dani?
Oui, non, je comprends, mais je voulais surtout réagir aux propos des...
Non, mais votre truc, je comprends, mais vous, avez-vous un truc? Achetez moins,
d'acheter aux besoins qu'on a, effectivement. Je partage votre propos par rapport aux grandes quantités. Ouais. Si on en a besoin d'un, on n'a pas besoin d'en acheter deux non plus.
Exactement. Merci, Dani, d'avoir pris le temps de nous appeler. Alain, vous avez des trucs pour moins gaspiller.
Ben oui, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Votre sujet, ce matin, m'interpelle pas mal parce que ma femme et moi, on a une couple de trucs dont on entend à peu près jamais parler dans les émissions de consommation. Je vais te dire bien simplement. D'abord, on utilise beaucoup, je ne voudrais pas faire de publicité, sauf qu'il faut nommer les choses par leur nom. Là. Tout le monde connaît les plats Food Saver qui permettent d'enlever l'air là, dans les, pour préserver les aliments. Nous, on met systématiquement tous les aliments périssables qui ne vont pas dans l'autre méthode de conservation dont je vais vous parler. Donc, toute la série de plats Food Saver, on en a une batterie dans notre armoire et c'est ça qui sert comme première méthode.
Ça, c'est comme des Tupperware, mais plus technique, c'est quoi?
Non, c'est ça. Ah oui? Ce sont effectivement des plats Tupperware qu'on utilise depuis une trentaine d'années. Bon, okay. mais la méthode la plus révolutionnaire qu'on a connue en 2003, donc il y a une quinzaine d'années, c'est les appareils Food Saver. Et puis ça, c'est un appareil qui fait le vide. Et il y a une panoplie de sacs, de contenants en plastique qui permet de préserver notamment la viande hachée qu'on achète le jeudi puis qu'on va utiliser seulement le samedi.
Oui, je comprends.
Et qui est complètement préservé.
Je demandais à mes invités ce qu'ils en pensent, Food Saver, connaissez-vous ça?
C'est en fin de compte une machine qui vient avec un genre de boyau comme les contenants que monsieur parle, puis qui enlève l'air dans le contenant et qui permet une conservation plus longue.
Ouais. Donc, les Tupperware, vous en pensez quoi? Les gens me posent la question.
Les Tupperware, dans le fond, ce sont des contenants en plastique qui sont faits pour la conservation. Donc, normalement, si on les utilise selon les paramètres qui sont prévus pour ça, il n'y a pas de problème. Le plastique ne va pas se dégrader. C'est pas, par exemple, comme une bouteille d'eau qu'on va re-remplir. Là, elle n'est pas faite pour ça parce que c'est de l'usage unique.
Ouais, okay.
Donc, normalement, il n'y a pas trop d'enjeu avec ça. Après, je comprends aussi qu'on puisse préférer des contenants en verre ou en d'autres matériaux parce qu'il y a moins de risques de dégradation.
Ouais. Ce sont toutes des méthodes, en fait, pour prolonger la durée de vie des aliments. Puis ça, c'est un excellent truc, que ce soit les plats de plastique, le sous-vide. On peut aussi... Il y a différentes manières de prolonger la durée de vie de nos aliments. Par exemple, les fameuses fines herbes. Moi, ça a été un combat longtemps.
Ah,
oh,
mon Dieu,
on perd,
as-tu
on achète...
un truc pour vrai?
C'est ça, en parlant avec l'organisme Sauve ta bouffe, on m'a donné un excellent truc que j'applique maintenant et qui fonctionne, de prendre... En fait, de traiter les fines herbes ou les légumes, même plusieurs légumes, comme des plantes. Donc, on les met dans un verre d'eau. On met la petite pellicule de plastique autour, puis on met ça dans le réfrigérateur. Puis honnêtement, ça prolonge énormément la durée de vie de ces aliments-là, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de prendre deux feuilles puis finalement jeter la botte de persil et en racheter après la semaine suivante.
Ta botte de persil, tu l'utilises comme un bouquet, finalement.
Voilà, exactement.
Comme un bouquet.
Au frais.
Mais
même
la ciboulette, ça marche pas.
Mm-hmm. Mais sur le site de Sauve ta bouffe, vous allez trouver différents trucs comme ça pour les différents aliments, justement, pour prolonger leur durée de vie.
Je pense aussi, tantôt on en parlait hors d'onde, les gens me demandent souvent, c'est quoi ta solution pour la maison au niveau de l'anti-gaspillage? Puis je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant de faire, c'est un autodiagnostic, de se dire pendant 3-4 semaines, de façon, à chaque fois que je vais jeter quelque chose, je le prends en note, juste pour être transparent par rapport à ça, sans se moraliser. Puis au bout du mois, vous regardez ça, puis rapidement, sans l'aide de personne, vous pouvez voir des points d'action super facilement, vous dire... Ah, je voyais peut-être pas ça de même, mais au final, quand j'achète ce type d'aliments-là en grosse quantité, j'en jette. Telle autre affaire, c'est que la vie va tellement vite, des fois, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais avec le recul, vous allez prendre 5 minutes, puis honnêtement, tout seul, vous êtes capable de trouver des solutions.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. On a Patrick pour terminer. Bonjour, Patrick, rapidement. Il nous reste 30 secondes.
Bonjour. Ben, je vous dirais que c'est vraiment. Moi, je faisais des plats à la semaine. J'étais mineur, moi. Toute la semaine. Puis mon frigo ne peut pas rester plein. Fait que je me faisais des plats, j'achetais une épicerie pour faire tout pour ma semaine. Puis, à un moment donné, je me suis mis à faire des plats pour un mois, pour 5 semaines. Puis, ça fait vraiment que mon épicerie, je ne le fais pas toutes les semaines. Donc, il n'y a pas des rabais toutes les semaines. C'est pas évident non plus d'avoir des rabais tout le temps. Puis, à faire ça pour un mois, je me mets une fin de semaine par mois, vraiment à faire 60, 70 plats. préparés, congelés.
Wow.
Puis ça me sauve vraiment beaucoup.
Eh, hey, bravo, vous êtes bon. Ben, vous avez tellement raison. Ben, c'est sûr, bravo. Mathilde Roy, merci de votre article. Vos articles, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont traités. Alors, je vous recommande à nouveau, protégez-vous. Êtes-vous vraiment écolo? Vous pouvez pas le manquer. C'est une très verte. Amélie Côté, bricabac.com. Merci d'avoir été là, Amélie.
Merci à vous.
Guillaume Quentin de La Transformerie, on va suivre vos produits. Merci, Guillaume.